Merci beaucoup. Donc je remercie d'abord Madame Cortade, Maria Cortade, de cette organisation et de me faire confiance sur un certain pari de faire rencontrer, on pourrait dire, la culture générale et la tradition juive. Donc ça va être ça un petit peu justement le sujet. Comment aborder le sujet, justement? D'abord, je vous remercie d'être là. Le sujet est le suivant. Je pense que les gens cultivés en France ont entendu parler du Talmud. En particulier, Emmanuel Levinas a donné, au niveau de la culture générale, des lettres de noblesse au Talmud. Donc on pourrait dire, quelqu'un de cultivé, qui s'intéresse, qui recherche quelque chose dans la vie, a entendu parler du Talmud. La culture juive, la pensée juive, elle est, comment dire, présente un peu partout. Je dirais comme ça, on pourrait trouver de la culture juive dans les films des frères Cohen. Oui, c'est pétri, on pourrait dire un film comme A Serious Man, c'est du judaïsme, c'est pétri de judaïsme. Mais c'est quoi véritablement la tradition juive? Et là, il y a, je dirais, un bug, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Et en particulier le Talmud. On a sûrement l'intuition diffuse qu'il se passe quelque chose dans le Talmud. Mais c'est opaque. On ne sait pas comment rentrer là-dedans. Notre génération, je pense, a une chance particulière. C'est que, en particulier ici en France, peut-être dans d'autres pays, mais ici en France, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des grands soubresauts culturels. Je dirais les soubresauts culturels des années 60-70, où des jeunes de la communauté juive se sont posés des questions. C'est quoi vivre? C'est simple, c'est des questions, je pourrais dire, essentielles. Leurs parents, grands-parents, ont souvent été déportés, cachés. Il y a eu, au niveau culturel, des grands soubresauts. Il y a eu la décolonisation. Beaucoup de familles de la communauté juive, les gens ne le savent pas aujourd'hui, et je pense que dans le fond ici, dans la bibliothèque Madeleine Audoux, il y a un fond là-dessus. Beaucoup des gens ne savent pas que beaucoup des gens de la communauté juive étaient très très investis dans le communisme. Aujourd'hui, on dit communisme, je dis à mes élèves de Yeshiva, Marx, et dit c'est un burlesque américain. Hein, mais... Mais disons, c'est très rigolo. Ou alors, au mieux, ouais, c'est un magasin, une chaîne de grands magasins anglais, Marks & Spencer. Mais c'est pas Marx, vous dire à quelqu'un Marx. Mais il faut savoir que beaucoup de gens de la communauté juive étaient investis corps et âme dans le communisme. Le communisme, ou des mouvements pas très loin, qui se bagarrait avec le Bund, ouais, ici, dans le quartier, ici, le 3e, etc., le carreau du Temple, c'est des quartiers très historiques de ça. Et, bon, nous, à l'époque, nous fûmes jeunes, et on a grandi là-dedans, avec beaucoup de questions. Nos parents, nos grands-parents nous disaient, vivre, c'est impossible. D'ailleurs, Pépé a été mort, on ne sait pas exactement comment, Ah, tata, qu'est-ce qu'elle était mignonne, etc. Et on les a plus vus, et on nous dit, ben voilà, allez-y, libération sexuelle, allez-y, la vie est à vous. Et il y en a beaucoup qui se sont posé des questions. Et ça a été, on pourrait dire, le bouillonnement intellectuel des années 60, début des années 70. Et se trouve, pour des raisons que j'ignore, plusieurs dont, personnellement, j'étais un peu là-dedans, on a rencontré des maîtres talmudiques, des maîtres talmudistes. Et ce qui a été, en tout cas, pour moi, et je n'étais pas le seul, extrêmement bouleversant, mais je dirais plus que bouleversant, c'est de voir que ce que nous recherchions, à travers la pensée, la réflexion que j'appellerais de la contre-culture des années 60-70, cette recherche d'une autre voie, d'une autre manière de vivre, d'une manière de vivre, je dirais, une utopie qui pourrait être vécue au quotidien. Un livre qui résume un des livres phares de cette époque, c'est le livre de Raoul Van Eghem, Le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Donc c'est au milieu des années 60, c'était notre cri de guerre. C'était notre cri de guerre. Nous voulons, il y avait même, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelqu'un qui ensuite est devenu un grand architecte, Roland Lancastro, dans les années 60-70, avec des potes, ils avaient fait un groupe gauchiste qui s'appelait Vive la Révolution, VLR. Et le slogan de Vive la Révolution, c'était « Nous ne sommes rien, soyons tout ». Qui est en vérité, ça fait partie de l'international. C'est une phrase de l'international. « Nous sommes rien, soyons tout ». Mais dans l'intérieur de ces slogans, qui comme tout slogan ne veulent rien dire en vérité, il y avait une recherche que notre vie quotidienne signifie quelque chose. Et c'est quoi la vie quotidienne? La vie quotidienne, c'est pas, je dirais, aujourd'hui nous sommes 40 ans après, je vais peut-être dire comme ça, dans les années 60-70, il y avait une réflexion sur les thématiques du quotidien. La révolution, certains en voulaient en faire une révolution politique, mais pour beaucoup, c'était une interrogation sur qu'est-ce que c'est l'éducation ? Qu'est-ce que c'est, vous savez très bien, qu'est-ce que c'est, par exemple, les prisons, qu'est-ce que c'est punir ? Il y avait Foucault, Michel Foucault. Punir, surveiller, qu'est-ce que c'est punir ? Qu'est-ce que c'est le nationalisme ? Puisqu'il y avait la décolonisation. Donc, la dimension, qu'est-ce que c'est une nation ? Est-ce qu'un nationalisme est automatiquement un fascisme, puisque c'était quelques dizaines d'années après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait, on pourrait dire, le nationalisme avait massacré des dizaines de millions de personnes. On se demandait, qu'est-ce que c'est l'appartenance à un peuple ? Et pour ceux de la communauté juive, on se demandait, l'attachement au fait d'être juif, est-ce que c'est un nationalisme comme un autre ou non ? Est-ce que c'est un universalisme ou est-ce que c'est un particularisme ? Certains juifs se sont engagés corps et âme dans le mouvement pro-palestinien. Mais, en vérité, c'est aussi une sorte de nationalisme. C'est aussi une sorte de fascisme. Des questions essentielles se posaient. Et je dirais plus encore, la dimension de recherche. Qu'est-ce que c'est le plaisir? Parce qu'il y avait, à la suite, on pourrait dire, du bouleversement de la psychanalyse du début du XXe siècle, à la fin des années 50, il y a eu, évidemment, l'invention de la pilule par le docteur Pincus a été un bouleversement radical sur la face de la Terre. L'invention de la pilule a été quelque chose d'absolument, quelque chose de radical. Et à travers ces bouleversements qui ont été mis en mouvement par la psychanalyse, la dimension qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme, se sont posées. Qu'est-ce qu'un homme et une femme font ensemble? Qu'est-ce que la sexualité? Et ces questions, en vérité, à l'époque, je dis souvent aux gens qui n'ont pas connu cette époque, des années 60, début des années 70, il y avait à l'époque, peut-être c'est un fantasme que je me fais, mais c'est le souvenir que j'ai, il y avait à l'époque autant de librairies qu'aujourd'hui il y a de pizzerias ou de magasins de sushis. C'était l'ambiance. C'est vrai que d'autres vous parleront de cette époque d'autrement, mais pour moi c'était une émulation intellectuelle. Et quand, pour des raisons que je ne sais pas exactement déchiffrer, j'ai rencontré un grand maître du Talmud, marocain, juif marocain, qui était, comment dire, intéressé de voir un jeune qui se posait des questions comme ça. Il a réussi à me faire réaliser, sentir, que ce bonheur de rechercher, ce bonheur d'apprendre, c'était ça qui était en jeu dans le Talmud. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Nous sommes aujourd'hui dans une autre période où les questions du quotidien, je ne sais pas si on se les pose, sûrement, mais ce n'est pas tellement les thématiques. Aujourd'hui, c'est très intéressant, depuis 20 ans, peut-être un peu plus que 20 ans, les grosses idéologies s'étant effondrées, il y a eu un retour, je dirais, de celui que Nietzsche avait enterré. Oui, vous avez deviné, le retour de Dieu. Dieu superstar, voilà. Aujourd'hui, ouais, mon Dieu lave plus blanc que le tien. Voilà. On est happé par le problème de Dieu. Je dirais, pour la formule, je ne sais pas, c'est une formule, je dirais un petit peu rigolote, le 11 septembre 2001, ouais, je dirais, c'est la guerre de Dieu contre Winnie l'ourson. Ouais, à ma droite, Winnie l'ourson, à ma gauche, Dieu. Ouais. Et on est donc on est happé par le phénomène de Dieu. Je dirais, dans la tradition juive, et Lévinas l'a dit très bien, certes, la relation à Dieu est fondamentale. Mais, et je commencerai à parler de choses sérieuses, dans les yeshivot, où j'ai eu la chance ensuite d'étudier pendant des dizaines d'années, de continuer à étudier, yeshivot, c'est-à-dire ce sont des lieux, je dirais, de recherche. On recherche, c'est des centres de recherche. Les gens pensent que dans les yeshivot, qu'est-ce que vous faites dans les yeshivot? Vous priez toute la journée dans les yeshivot? On prie, c'est comme... disons, un juif religieux, il prie, un juif pieux, il prie. Mais c'est un centre de recherche. Je dirais, on dit comme ça dans les yeshivot, on dit, quelle est la preuve que Dieu existe? Elle ne va pas vous plaire, hein, ce que je vais dire. elle ne va pas vous plaire. Quelle est la preuve que Dieu existe? C'est lorsque Maïmonide, dans le Mishneh Torah, commence, fondement des fondements et base de la connaissance, de savoir qu'il y a un être premier, omniscient, et base de toute réalité, le Reved, Rabbi Avraham ben David, ne le contredit pas. C'est bon, c'est pas bon? Non, c'est pas bon. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, parce que Maïmonide, il a écrit le grand livre de loi qui s'appelle le Mishneh Torah. Maïmonide est connu comme ayant été un immense philosophe, il a écrit le Guide des Égarés. Certes, mais dans la tradition juive traditionnelle, certes, Maïmonide a rédigé le Guide des Égarés. Mais son œuvre principale, c'est son livre de loi, le Codex de Maïmonide, le livre de loi de Maïmonide qui s'appelle le Mishneh Torah. Et le Mishneh Torah, quand il a rédigé le Mishneh Torah, son contemporain, Rabbi Avraham ben David de Poskier, qui était à Lunel dans le midi de la France, l'a presque à toutes les lignes, l'a contredit. Quand Maïmonide dit blanc, le Rebbe dit le contraire. Et il le prouve. Je suis contre ce que tu dis, contre ce que tu dis. Mais la première ligne du livre, il dit base de la connaissance, base de la foi et base de la connaissance de savoir qu'il y a un être premier. Le Rebbe ne le contredit pas. Donc, là-dessus, c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon, et on continue. Ça veut dire qu'on n'en fait pas tout un gratin. C'est pas le principal. Et, pour introduire le principal, plutôt que faire des généralités, je vais voir avec vous un passage de Talmud. Un passage de Talmud. Encore un préliminaire succinct. Il y a un livre de Primo Levi, je ne me souviens plus lequel, un recueil de textes de Primo Levi, où il parle du Talmud. Et il cite une phrase d'Einstein. La phrase d'Einstein est la suivante. Dieu est subtil, mais il n'est pas méchant. Et il rapporte ça au sujet du Talmud. Dieu est subtil, mais il n'est pas méchant. Donc nous allons faire, plutôt que faire des généralités, on va faire un passage de 5 lignes du Talmud. Mais il faut suivre. Et je pense que vous avez tous le BEPC, plus ou moins. C'est bon. Hein, c'est bon. Hein. Vous êtes minimum bac moins 2. Hein. C'est bon. Hein. On ne sait pas. Mais il faut un peu suivre. Alors, la base du Talmud, puisque c'est notre sujet, la base du Talmud, c'est du juridique. C'est du juridique. Donc, ce n'est pas une pensée éthérée. Juridique, c'est-à-dire que les enjeux que nous sommes en train de travailler s'appliquent dans la vie quotidienne. Ce n'est pas abstrait. Nous devons, à la suite des discussions, du travail que nous faisons, arriver à une conclusion, et cette conclusion, eh bien, nous allons la vivre. C'est ce que nous allons vivre. Petite parenthèse encore, à la suite de l'exposé, je serai très heureux si vous avez des questions. Bien, hein, après, oui, je serai heureux d'écouter vos questions. Bien, je ferme la porte. Donc, j'ai essayé de méditer comment introduire, parce que le Talmud, c'est 20 volumes énormes. Donc, comment apporter un texte qui pourrait cristalliser les enjeux que nous avons appelés Talmud et modernité. En méditant, un passage m'est venu. dans le traité Ketubot. Le traité Ketubot est un traité qui parle du contrat de mariage. C'est-à-dire, lorsque un couple se marie, il y a des engagements mutuels. L'homme a des engagements à l'égard de son épouse, et l'épouse a des engagements à l'égard de son mari. Bien. C'est un des traités les plus étudiés dans les yeshivot, traité Ketubot. Et la Mishnah, donc, maintenant, on va quand même, puisqu'on rentre dans des choses plus techniques, j'expose. Qu'est-ce que c'est le Talmud ? La tradition juive dit que Moïse, lorsqu'il a reçu la loi de Dieu au mont Sinaï, la loi écrite, c'est-à-dire, on va dire la Bible, oui. Voilà. Moïse, en même temps, a reçu le commentaire oral de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a transmis à Moïse comment aborder ce texte. Parce que un texte, on ne sait pas exactement comment il se concrétise dans la vie. Justement, vous voyez, comment il se concrétise dans la vie quotidienne. Je prends un exemple. Dans la tradition juive, il est licite de manger de la viande. Mais pour manger de la viande, il faut faire l'abattage rituel, ce qu'on appelle la shrita. C'est écrit dans le texte de la Torah, si tu veux manger de la viande, tu l'égorgeras comme je te l'ai ordonné. C'est écrit comme ça dans la Torah. Si tu veux manger de la viande, tu l'égorgeras comme je te l'ai ordonné. Où il a ordonné? Où il a ordonné? Ben, il a ordonné oralement. Ce sont des lois orales qui se sont transmises oralement de maître à élève. Les siècles passant, vers 200 de l'ère chrétienne, un maître important en terre d'Israël, Rabbi Yehuda Anassi, voyant que les Romains avaient éparpillé une partie importante, très importante de la communauté juive, le gros de la communauté juive n'était plus en Israël, mais était en Irak. L'Irak était à cette époque la terre d'exil principale. Allez, au milieu, si vous voulez, vers le début de l'ère chrétienne, le gros de la communauté juive était en Irak. C'est ce qu'on appelle Babel, le Talmud de Babylone. Bien. Et aussi, il y avait, donc Jules César et compagnie ont exilé des parties importantes de la communauté, par exemple dans la vallée du Rhin, en Espagne, etc. Donc, pour unifier toutes les communautés, Rabbi Yehuda Anassi a rapporté, je dirais, le concentré de la tradition orale dans des genres, dont on pourrait dire des haïkus. Ouais, c'est ce que je veux dire. Des genres de phrases extrêmement concises qui s'appellent la Mishnah. C'est la Mishnah. Mais, on pourrait dire, ces phrases extrêmement concises qui s'appellent la Mishnah, même quelqu'un comprend l'hébreu, il ne voit pas très bien comment ça marche. Donc, il y avait une tradition orale qui se transmettait. Comment décrypter ces textes qui s'appellent la Mishnah ? 3-4 siècles après, à Babylone, à Babel, donc c'est-à-dire en Irak, où se trouvait le gros de la communauté juive, des grands maîtres ont rédigé ce qui s'appelle la Gemara, le Talmud. Mais le Talmud aussi, qui est rédigé, qui est énorme, il faut avoir, encore aujourd'hui, appris de ses maîtres comment le décrypter. Vous pouvez trouver sur Internet plein de traductions du Talmud, en français, en anglais, en russe, en espagnol, tout ce que vous voulez. Mais pour rentrer dans la pensée du Talmud, il faut avoir reçu de ses maîtres. Donc c'est encore oral. C'est encore oral. Alors, on va aborder, donc, la Mishnah nous dit, dans le traité Ketubot, que un mariage s'est fait d'amour, d'eau fraîche, d'eau très fraîche, et aussi d'engagement financier. Voilà, ça, mon sourire talmudique commence à émerger. C'est qu'on commence à parler de choses intéressantes, l'argent. Donc, il se marie et dans la vie quotidienne, il y a des choses à faire. Un mari, a priori, peut demander à sa femme de faire le ménage. Elle dit, je ne veux pas faire le ménage, paye une femme de ménage. S'il est d'accord, il dit, mais oui ma chérie, mais absolument, je suis bête, j'aurais dû y penser tout seul. Évidemment, je te paye la femme de ménage, tout va bien, il n'y a pas de problème. Le problème est juridique. Est-ce que lui dit, je ne veux pas payer une femme de ménage, tu es ma femme, tu es ma chérie, tu fais le ménage. Je t'adore, mais tu fais le ménage. Voilà. Alors, juridiquement, elle doit faire du ménage. Si elle amène en dot un pécule pour payer une femme de ménage, lui dit, moi, je ne veux pas payer une femme de ménage. Elle amène en dot, ok. Mais au niveau juridique, elle fait le ménage. C'est Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve. C'est son épouse, c'est sa chérie, mais il faut aussi faire le ménage. Lui aussi, il va travailler, elle aussi, elle va travailler. Mais, si vous voulez, c'est juridique. Maintenant, il y a la question qui va nous occuper. Et je pense que c'est le sujet qui, premier dans votre existence, qu'est-ce qu'il en est de l'allaitement ? L'allaitement. Je pense que vraiment, en venant ici, c'était vraiment la question que vous vous posiez. Hein. C'est mon sens psychologique profond me fait dire que c'était vraiment la question que vous posiez. Qu'est-ce qu'il en est de l'allaitement ? Alors, le Talmud dit, parce que, évidemment, à l'époque du Talmud, il n'y avait pas du lait gigose. Ouais, il n'y avait pas le lait gigose. Donc, la question va être... Est-ce que elle a dit, moi je ne veux pas allaiter. Paye une nourrice. C'était la maman, un bébé, c'est la maman qui allaite. Soit il faut payer une nourrice. Une nourrice, il faut payer. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'allaitement ? Alors, on fait un arrêt sur image. Qu'est-ce que vous en pensez ? On lance. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Naturel de vouloir allaiter son enfant, hein, pour faire chercher une nourrice.
Comment ? Oui, c'est naturel.
C'est obligatoire.
Il y a le fait qu'il faut d'abord que l'enfant vive.
Comment ?
Il y a d'abord qu'il faut que l'enfant vive. Qu'est-ce qui lui permet de vivre ?
Il faut qu'il ait du lait. Alors c'est soit c'est la maman, soit on paye une nourrice. Mais la nourrice, il faut la payer. Alors vous dites...
Une mère, elle a envie d'aller.
Alors regardez ici, là on va rentrer dans la pensée talmudique. Regardez, là on va rentrer dans la pensée talmudique. Vous avez dit un mot très très important, c'est naturel. Mais nous, êtres humains, est-ce que nous sommes que des êtres naturels ? Nous sommes aussi des êtres culturels. Ça, c'est là où ça va commencer. Et nous allons voir aussi qu'aujourd'hui, c'est d'une actualité, je dirais, explosive. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Il paraît qu'il y a des journaux qui disent « Oui, en Israël, des ultra-orthodoxes sont misogynes, machin. Bon, j'ai pas lu, mais j'ai entendu parler. L'image qu'on a d'un monde, je dirais, un monde où il y a une transcendance, pas un monde laïque, mais un monde où il y a une transcendance, c'est que les femmes, il faut qu'elles marchent droit. C'est connu. Ouais. Les femmes doivent être opprimées. C'est ça, un monde où il y a une transcendance. Ouais. Attention, eins, zwei, les femmes, ouais, c'est l'idée qu'on a instinctivement. S'il y a une transcendance, automatiquement, il faut que les femmes soient opprimées. Ça, c'est l'idée qu'on a a priori. Alors, on va voir sur pièce. On va voir sur pièce. On pourrait dire, effectivement, spontanément, on pourrait dire, ben, ma petite. Si Dieu t'a fait comme ça, c'est, comme dirait notre maître à tous, Fernand Reynaud, c'est étudié pour. Ouais, bah, t'as un bébé, lactation, que tu veux en plus que je paye une nourrice, Dieu t'a fait comme ça. Dieu t'a fait comme ça. On pourrait dire. Alors c'est ce qu'on va voir, c'est la question posée dans le Talmud. Alors, je vous donne la référence, pour ceux que ça intéresse, dans Traité Ktubot, Daf Samer Aleph Amud Aleph, Traité Ktubot, Folio 61a. I omeret l'anik, ve ou omer shelo l'anik. Il y a un conflit entre lui et elle, mais le conflit n'est pas comme on pense. Elle veut allaiter. Elle veut allaiter, et lui, il dit, non, je veux pas, je paye une nourrice. Ma chérie, je veux pas que tu te fatigues. Je veux pas que tu te fatigues. Je paye une nourrice. C'est bien pour toi. Ou Omer l'anique, I Omer et l'anique, elle dit d'allaiter, et lui, il dit, non, je veux pas que tu allaites. Chomimla, on l'écoute. Donc, elle veut allaiter, elle lui dit non. Elle a gain de cause. Elle dit, mais je veux que tu restes comme une jeune fille. Je veux pas que tu te fatigues, que tu fasses dodo la nuit. Notre bébé, on le confie à une nourrice. Non, elle a gain de cause. Pourquoi elle a gain de cause? Alors, regardez, pourquoi elle a gain de cause? Alors, vous avez dit, c'est naturel. C'est naturel. Alors, le Talmud dit Tsara Didai. C'est sa souffrance à elle. C'est sa souffrance à elle. Rashi, je vais vous expliquer qui c'est Rashi. Rashi, commentaire du Talmud, dit Achalav Rav Bedadea Umetsara. Elle a beaucoup de lait dans sa poitrine, ça lui fait mal. Regardez, c'est subtil. C'est très subtil. Très subtil. Alors, ça c'est une page de Talmud. J'ai fait une photocopie. C'est une page de Talmud. Ça c'est le texte donc, qui a été écrit au 5e siècle de l'ère commune à Babel, donc en Irak. Et autour, il y a deux commentaires, dans toutes les éditions du Talmud, deux commentaires. Ça, c'est le commentaire de Rashi et commentaire de Tosfot. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzraki, qui était à Troyes au XIe siècle. Troyes au XIe siècle. Il est décédé vers 1080, quelque chose comme ça, quelques années après les premières croisades. Donc, il était à Troyes, donc en Champagne. Oui. Ça, ce sont les élèves de Rashi qui étaient aussi principalement en Île-de-France. Ici à Paris, il y avait des maîtres talmudistes au 12e, 13e siècle. Très importants, des maîtres très très importants. Ils venaient d'Espagne, par exemple, Nachmanide est venu d'Espagne, de Barcelone à Paris, pour étudier le Talmud. La rue de la Harpe, on dit la rue de la Harpe dans le quartier latin, j'ai entendu que originellement elle s'appelle rue de la Harpe juive, et c'est là qu'était le centre talmudique de Rabbi Yechiel de Paris. Alors, mes maîtres m'ont toujours fait remarquer que c'est impressionnant quand même que sur la page de Talmud, ce sont des maîtres qui ont grandi dans le paysage français. Et ils en ont fait presque une thématique aussi, que le côté, toujours qu'il y a eu, le côté libre-penseur qu'il y a dans la pensée française, est toujours allé de pair avec la pensée talmudique. Donc Rashi, commentaire très important, explique. Pourquoi elle a gain de cause ? Le Talmud dit parce que c'est sa souffrance. Rashi explique, ben oui, elle a mal à la poitrine, elle a plein de lait. Ici, pourquoi le Talmud ne dit-il pas ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure ? Mais c'est naturel. Et vous avez dit, de manière importante, je pense, que c'est une question de langage. Dire c'est naturel, c'est de l'idéologie. Naturel, c'est un regard sur la nature. C'est une idée. Et ici, le mari dit, ma chérie, c'est mieux pour toi. Mais ça, qu'est-ce qui sait que c'est mieux pour toi ? C'est la personne qui le vit. Mais elle le vit. Elle a dit, mais t'étais pas à ma place. T'as pas une poitrine, tu sais pas qu'est-ce que c'est. Je veux dire, tu t'en sais rien, que c'est bien pour moi. Moi, je vis ce que je vis. Je veux dire, tu peux pas parler pour moi. Et elle va parler de ce qu'elle sent, ce qu'elle vit. Elle va pas dire des idées. Elle dit, moi j'ai mal. Peut-être elle va dire, moi c'est naturel. Si elle le dit aussi, elle le dit. Mais le Talmud va chercher le degré zéro de il n'y a pas un langage colonisateur. L'homme ne va pas coloniser sa femme. Elle vit quelque chose que... elle est la seule à vivre ce qu'elle vit. Elle va pas. Elle vit. Tu t'en sais rien. Moi, je vis ce que je vis. Je veux allaiter mon bébé. Alors, le Talmud dit, c'est sûr, elle a gain de cause. Même si des gros richards, il peut avoir 5 nourrices. Non, moi, je veux allaiter mon bébé. Elle a gain de cause. Maintenant le contraire. Ou Omer l'anik, ve i Omeret shelo l'anik. Maintenant, lui il dit, je veux pas payer une nourrice. Elle dit, je veux pas allaiter. Alors, ça a été rédigé il y a 1800 ans. Hein. C'est important de savoir. Ça a été rédigé il y a 1800 ans. C'est pas Betty Friedan qui a rédigé ça. C'est Betty Friedan ? C'est ça, Betty Friedan ? Non ? Oui, c'est vos classiques, c'est une bibliothèque ici. Betty Friedan, c'est Madame Cortal, vous savez qui c'est Betty ? Comment ? Celle qui a inventé le Women's Lib. Oui, Betty Friedan. Bon. Ok. Alors, lui, il dit, non, je ne paye pas de nourrice. Je ne paye pas de nourrice. Et elle, tu allaites. Elle dit, je ne veux pas allaiter. Qu'est-ce qu'il en est ? Kolecha, le Talmud dit. Donc, je répète, c'est très important, ça a été rédigé à 1800 ans. Kolecha de lav ucha shomimla. Ça dépend dans quel milieu elle a été élevée. Si dans sa famille, à elle, on n'allaitait pas, mais on donnait à des nourrices, elle a gain de cause. C'est-à-dire que dans le milieu dans lequel elle a grandi, on n'allaitait pas. Elle n'a pas vu sa maman allaiter ses petits frères et sœurs. Ses sœurs, quand elles se sont mariées, elles n'allaitaient pas. Alors, elle a gain de cause. Ici, très très important, le Talmud ne dit pas, un moment, le Talmud ne dit pas, c'est normal, c'est naturel. Il ne dit pas, c'est normal, c'est naturel. C'est même une fonction qui est physiologique, finalement. C'est physiologique et c'est même vital, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vital. Eh bien, cette fonction physiologique n'est pas abordée comme un pur physiologique. Ça peut l'être. Si elle le vit, qu'elle le vit, elle dit, moi, j'ai besoin d'allaiter. T'as besoin d'allaiter. Voilà. Mais, si elle dit, moi, je veux pas allaiter, alors ça dépend. Ça dépend. Si, ça, donc ici, le Talmud dit que quelque chose qui paraît, somme toute, naturel d'allaiter, ouais, que Dieu a fait une maman qui a un bébé, et elle a une lactation, ça c'est naturel. Mais si elle ne l'a pas vu, elle n'a pas été élevée comme ça, alors elle a gain de cause. Elle ne veut pas allaiter, normal. Maintenant, si elle, dans sa famille, on n'allaitait pas, et dans sa famille, à lui, on n'allait pas, je sais pas, c'est, excusez-moi l'expression, c'est des bourgeois. Ouais, c'est des bourgeois. Oui. Et qu'il y a un bébé, il y a une nourrice. Oui, il y a une nourrice. Bon, alors là, elle a gain de cause. Si par contre, dans sa famille, elle est dans un milieu où elle a vu sa maman allaiter, ses sœurs allaiter, ses belles-sœurs allaiter, et dans la famille à lui aussi on allait, alors il peut dire, ma chérie, bon, là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà, ça, c'est la Mishnah. Ça, c'est la base, l'enseignement de la Mishnah. Par contre, si elle, dans son milieu, on allaitait, mais dans son milieu à lui, on n'allait pas. Ça veut dire, elle vient d'un milieu simple, prolongé, ouais, et lui, alors, il dit, mais dans ta famille, t'as vu qu'on allait, ouais. T'as vu qu'on allait, alors tu dois allaiter. Le Talmud dit non. Pourquoi ? Parce qu'une femme monte de standing, mais ne descend pas de standing. Ici, nous voyons que sur quelque chose, on voit quelque chose de très très important. D'abord, si dans son milieu à elle, on n'allaitait pas, son milieu à lui, on allait, mais elle ne descend pas de standing. Ici, on voit quelque chose de plusieurs points très subtils. D'abord, que l'homme doit faire très très important, très attention au rythme de vie de son épouse. Si elle est habituée à quelque chose, il ne peut pas venir venir comme ça, comme un déstabiliser. Ça c'est un élément qui devient juridique, donc qui devient concrètement. Et deuxièmement, le Talmud dit qu'il ne peut pas jouer la carte du naturalisme. Ah, dans ta famille, on allaitait, c'est normal que tu allaites. Elle dit, oui, d'accord, mais maintenant je suis habitué à autre chose. Il ne peut pas la forcer. Qu'est-ce qu'on voit d'ici ? On voit quelque chose de très très important. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, que ça dépend comment on dit les choses. Si elle dit, bon, c'est normal, j'allaite, c'est normal, j'ai envie d'allaiter, ok. Mais si elle dit, maintenant, je vis dans un certain contexte, même quelque chose qui est, somme toute, physiologique, eh bien, le physiologique n'existe pas, ne fait pas loi en tant que tel. Le physiologique n'a un sens que dans la mesure où on parle de ce physiologie. Il y a des mots pour le dire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aussi, le premier élément, c'est que l'homme n'a pas un discours par rapport à la femme. Il n'y a pas de dimension, je dirais, il n'y a pas de dimension colonisatrice d'un discours masculin. La femme, ça dépend qu'est-ce qu'elle dit. Et ça, c'est un élément. Je vous ai rapporté ce sujet qui est, on pourrait dire, un micro-sujet, mais qui me semble un exemple qu'on pourrait généraliser. Que la loi juive, il n'y a pas de loi une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des discussions dans le Talmud. Ça, c'est fondamental. Le Talmud est toujours sous forme de discussion. Ce qui va nous éduquer dans l'existence, que pour pouvoir trancher une loi juridique, ça dépendra comment la question est posée. Je vous donne un exemple classique dans le Talmud. Les sujets, peut-être, ne sont pas pour vous d'une importance vitale, mais le sujet est le suivant. Dans les familles juives, il y a des gens qui sont Cohen. Un Cohen n'a pas le droit d'être en contact avec un mort. Sauf exception. Vous voyez, quelqu'un qui est Cohen ne peut pas aller au cimetière, par exemple. Bien. Ce sont les descendants du grand prêtre Aaron. Bien. Alors maintenant, il y a deux villages. Il y a un village A et un village B. Et il y a deux chemins. On sait que sur un des deux chemins, alors ça, bienvenue au monde enchanté du Talmud. Voilà. Bienvenue au monde enchanté du Talmud. Là, on va commencer à faire du Talmud. Il y a deux villages, village A, village B, et il y a deux chemins pour aller du village A au village B. On sait que sous un des deux villages, sous des deux chemins, il y a une tombe. Mais on ne sait pas si la tombe est sous le chemin de droite ou sous le chemin de gauche. Voilà. Il y a deux Cohen qui prennent le chemin. Un qui prend le chemin de droite, un qui prend le chemin de gauche. Et ils arrivent devant un juge rabbinique dans le village B. Il y en a un, il arrive. Je suis passé, j'ai pris le chemin de droite, et je ne sais pas s'il y avait une tombe sous le chemin de droite ou non. Le juge rabbinique lui dit, dans le doute, tu es pur. Dans le doute, tu es pur. L'autre, il arrive, ouais, j'ai pris le chemin, l'autre chemin, le chemin de gauche, et je ne sais pas s'il y avait une tombe ou non. Il dit, dans le doute, tu es pur. Bien qu'en vérité, dans l'absolu, c'est sûr qu'un des deux soit impur. Si les deux arrivent en même temps et posent la question de concert, on est deux copains, ouais, il y a Dupont D et Dupont T qui arrivent, qui sont Cohen évidemment, et qui vont demander au juge rabbinique, on arrive, moi j'ai pris le chemin de mon copain, chemin de droite, l'autre chemin de gauche, il dit, puisque là, c'est indubitablement, un des deux est impur, ouais, les deux sont impurs. Donc nous voyons ici, qu'il n'y a pas une vérité absolue. Il n'y a pas une vérité en soi. Ça dépend comment le problème est formulé. Et ça, c'est quelque chose absolument de fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, c'est quelque chose de vital, que les gens recherchent, je dirais, des vérités toutes faites, des vérités absolues. Même, il y a, par le regain de retour à la nature, de diabolisation de l'action humaine, que l'action humaine est fondamentalement mauvaise. Oui, c'est heureuse la nature. La nature est une dimension de pureté qui n'a pas été touchée par la barbarie humaine, etc. Et on cherche donc quelque chose de vitaliste, quelque chose d'une essence. Oui. Et nous voyons ici, le Talmud, dès des millénaires, aborde les choses, pas selon les sens, mais selon la manière dont l'humain aborde les choses. Et j'ai voulu exprimer cet exposé sous terme Talmud et modernité. Je pense que ça, c'est la modernité constante du Talmud. Qu'il n'y a pas une chose bloquée. Il n'y a pas une chose figée. On ne parle pas de l'essence. On parle, comme dirait Husserl, on parle du phénomène, de la manière dont nous, on a une relation avec le monde. Comment on parle le monde. Et c'est ces dimensions de parole, c'est pour ça que le Talmud, c'est ce qu'on appelle la loi orale. La base, c'est la dimension orale. Le texte de la Torah, le texte de la Bible, nous, talmudistes, je dirais, qui participons de la tradition juive, on ne dit jamais « c'est écrit dans la Bible ». Rien n'est écrit dans la Bible. Ça dépend comment tu lis. Rien n'est écrit dans la Bible. « C'est écrit dans la Bible !»« C'est écrit dans la Bible !» Dis-le-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a. Dis-moi comment tu lis ça. Je le lis comme ça, on peut le lire autrement. Il n'y a pas... Ça dépend. Ça ne veut pas dire que tout est dans tout et rien est dans rien. Ce n'est pas ça. Il y a des dimensions qui s'imposent. Mais qu'est-ce qui va s'imposer? C'est la manière dont on formule les choses. C'est pour ça que les choses sont toujours en discussion. Et pas seulement ça. J'étais heureux de vous présenter ce passage sur l'allaitement. Parce que je pense qu'il y a ici quelque chose qu'on appelle moderne. Qu'est-ce qui s'appelle moderne? Pourquoi j'ai voulu exprimer le titre de cet exposé en disant Talmud et modernité? Il y a, depuis des temps immémoriaux, le débat entre les anciens et les modernes. C'était au XVIIIe siècle, les anciens et les modernes. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose de vieux, je dirais. Qu'est-ce qu'on veut dire par moderne? C'est, il y a une tradition. Mais cette tradition, est-ce qu'elle est là pour nous bloquer ou cette tradition est là pour nous ouvrir des portes, pour nous donner des possibilités d'avancer dans notre existence, d'ouvrir des ouvertures, donner des possibilités à nous de vivre. Et c'est pour ça que, je vais vous dire, j'ai médité pendant plusieurs semaines pour savoir quoi vous apporter, parce qu'il y a tellement de passages dans Talmud que je me dis ce passage, après tel autre passage. Et ce passage sur l'allaitement, j'ai pensé qu'il est très significatif. Parce que on ne parle pas donc, du corps en tant que tel, mais la personne qui vit son corps. Ça, c'est la dimension extrêmement, je dirais, moderne. Le corps, c'est irréductible. La manière dont moi je vis mon corps, c'est irréductible. Tu peux rien dire, tu peux rien faire. Tu ne peux pas me coloniser. C'est la dimension irréductible, c'est ma relation à mon corps. Et pas le corps en tant que tel, en tant que nature, mais en tant que je vis mon corps et je parle de mon corps. Je parle de mes sensations. Dans mon livre, j'ai fait l'essai, puisque, vous l'avez deviné, j'ai eu un bagage de culture générale, comme j'ai dit au début de l'exposé, et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir étudier le Talmud, de continuer à l'étudier, et de découvrir qu'à travers ce travail, cette recherche talmudique, ça touche en vérité les problèmes, les problématiques universelles. C'est pas, comment dire, c'est pas du on pourrait dire aujourd'hui, de l'enfermement, mais c'est au contraire une manière rigoureuse de poser les problématiques essentielles, existentielles. Je cite peu d'auteurs hors Talmud, parce que je ne veux pas faire des philosophies comparées, mais j'ouvre des pistes. Des gens qui connaissent, par exemple, Aristote, voient qu'il y a beaucoup de travaux qui font des passerelles avec les philosophes, dont Aristote. Il y a un auteur que je cite, que je me plais à citer. C'est un auteur aujourd'hui qu'on peu connu, mais qui me semble fondamental dans ce qu'on appelle la modernité. C'est Wilhelm Reich. Vous avez déjà entendu parler de Wilhelm Reich? Oui. Wilhelm Reich est, me semble, très très important. Et le passage qu'on a vu tout à l'heure est presque reichien, si on peut dire. J'explique. « Wilhelm Reich, donc, était dans les années 20, si je ne m'abuse, était à Vienne. Il était, comme tout le monde, à l'époque, enfin, comme tout le monde, c'est meilleur de dire, ouais, psychanalyste et marxiste. Et il était, il a... De manière, je ne sais pas d'où ça lui est venu, il a dit que le marxisme ainsi que le nazisme vont s'écrouler par le fait qu'ils ignorent, ils écrasent la dimension de désir des individus. Et c'est-à-dire que ce que l'individu vit lui-même, ce que l'individu ressent, ce que l'aspiration même physique de l'individu, l'ignorer, c'est en vérité à terme se casser la figure. Il dit que ces totalitarismes vont s'effondrer sur la négation des désirs des individus. Il a écrit des livres très percutants là-dessus, des livres très percutants. Et il y a, je ne sais pas d'où il a tiré ça, mais on voit cela de manière très puissante dans la dimension talmudique. Très puissante dans le texte que nous avons vu. On ne peut pas parler juridiquement à la place de la personne qui est en train de vivre quelque chose. On ne peut pas se mettre à sa place, ça dépend de qu'est-ce qu'elle va vivre. Et c'est une aventure en vérité juridique. Qu'est-ce que ça veut dire juridique? Qui se concrétise dans la vie quotidienne, mais c'est aussi une aventure de relationnelle, de découverte de nous-mêmes et découverte de des gens avec qui on vit et une possibilité que les gens avec qui on vit puissent éclore, puissent se développer. Et ça découvre une thématique que je développe énormément dans le livre, la thématique fondamentale de la sexualité et de l'éducation. Donc, relation homme-femme et parents-enfants. C'est toute une découverte, donc une ouverture, une réflexion concrète sur la relation à autrui et relation intergénérationnelle. Voilà, grosso modo, l'exposé que je peux faire. Maintenant, j'attends vos questions. Oui ?
Vous avez lu Freud, j'imagine. Pensez-vous que Freud s'est inspiré du Talmud pour... ses théories sur la psychanalyse, parce que c'est très proche des théories psychanalytiques. L'individu, le sujet, la parole, c'est ce qui libère le sujet. Donc, les théories du talmudique sont psychanalytiques, complètement.
Alors ça, c'est une grande question. Je reprends la question. Hein. Est-ce que le lien entre le Talmud et la psychanalyse? Je vais vous dire. J'essaye d'être un peu spécialiste en Talmud, mais je ne suis pas spécialiste en psychanalyse. Hein. Ça, je le dis ça les choses clairement. Évidemment, j'ai lu, je lis encore, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Il me semble que Freud n'était pas connaisseur de Talmud. Il n'était pas connaisseur. Il me semble, alors ça c'est un débat, que Freud a exploré des directions hardies, mais il me semble qu'il est malgré tout victime du scientisme du 19e siècle. C'est-à-dire la volonté de faire une science, de faire une science de l'humain. Certes, il était hardi, mais il a ouvert beaucoup de portes. Mais il y a malgré tout une dimension, je dirais, malgré tout réductrice quelque part. Mais à part ça, je pense qu'il ne connaissait pas. Mais il me semble que dans beaucoup de penseurs juifs, dans le fond, il y a cette recherche, je dirais, si on peut dire comme ça, une dimension, je dirais, l'humain, fondamentalement, est déstructuré. Si on peut, maintenant, ça c'est un exposé, maintenant on va faire des choses peut-être plus personnelles. L'humain est déstructuré. L'âme, en hébreu, comment on dit âme en hébreu ?
Neshama.
Neshama, qui s'est dit en premier parce que j'ai... Ah, Neshama, un bonbon et... Vous avez Neshama ? Non, Neshama, qui c'est qui a dit Neshama ? Oui ? Non, parce que quand je fais un cours à Yeshiva, ouais, que les gens aient 18 ans ou bien plus, ouais, les bonnes réponses... C'est bon ce que j'ai mis.
C'est cachère.
Comment ? C'est trop cachère même. Alors, Neshama. Le mot Neshama, donc... Vous avez dit, il y a Nefesh aussi. Il y a plusieurs mots pour dire âme. Mais la dimension la plus subtile de l'âme, ça se dit Neshama. Le mot Neshama a comme racine Shemama, qui veut dire désolation, voire destruction. C'est-à-dire... une personne authentique ne se suffit pas des idées reçues. Une personne qui a quelque chose à l'intérieur, Neshama, Nishume, elle ne supporte pas les idées banales. Le besoin de questions, justement. Besoin de questionnement, besoin de nouvelles horizons. Et ces nouvelles horizons, souvent, sont destructrices. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, dans le buisson ardent. C'est connu, ça. Buisson ardent. J'ai entendu une explication. Alors, Moïse a vu un feu dans un buisson et le buisson ne se consumait pas. Il a dit, oh, je vais aller voir cette grande vision. Qu'est-ce qu'il y avait de grand ? C'est un effet spécial. Un effet spécial, je veux dire... à Hollywood, ils font mieux, je veux dire, un buisson, un buisson, du feu, c'est pas, il n'y a même pas de martien, je veux dire, ouais, une soucoupe volante, un truc, qu'est-ce que, ouais, alors, j'ai entendu l'explication, un feu, en général, un feu dévore, un feu, ce qu'il y a à l'intérieur de soi, La volonté de comprendre les choses, de vivre les choses, on devient, excusez-moi l'expression, pété, déstructuré. Mais voir un feu, mais qui ne détruit pas, un buisson qui n'est pas détruit, il a dit ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que le Talmud, qui pose toujours des questions, se concrétise par la dimension légale. C'est-à-dire, on discute, on peut discuter de tout, on analyse tout, mais on arrive à une conclusion. On s'engage. Au bout de discussion, on s'engage. Pour revenir à Freud. Tout ça, c'est pour revenir à Freud. C'est que il y a des gens qui n'étaient pas satisfaits de ce qu'on leur racontait. Ils ont voulu comprendre. Et ils sont allés au fond d'eux-mêmes. Ils ont touché quelque chose de vrai. Ils sont touchés, des vérités. Et souvent, souvent, dans la modernité, c'est ça ce qui a fait avancer la modernité, pour le meilleur et souvent pour le pire. Je dirais que Freud, ah, quand on s'est connu, quand il est arrivé en Amérique, vous croyez que j'apporte quelque chose de bien en Amérique, j'apporte la peste en Amérique. C'est vrai, le brave Freud, il a apporté la peste. Il a apporté des choses déstructurantes. Le Talmud et la capacité d'analyser sans tabou les finesses de l'existence humaine et ne pas se détruire avec. Ne pas se détruire. Ça, c'est quelque chose de très, très particulier. Très particulier. D'autres auteurs ont bouleversé énormément dans la modernité. En écrivant le livre, j'ai relu beaucoup sur l'éducation un auteur très important, pour moi important, Ivan Illich. Très important, Ivan Illich. Très, très important, Ivan Illich. Je ne savais pas, bon, moi j'ai grandi en lisant Ivan Illich. Ouais, bon, il y en a qui grandissent en lisant Harry Potter, moi j'ai grandi en lisant Ivan Illich. Bon, bon, excusez-moi de montrer mes névroses à tout le monde, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai grandi en lisant Ivan Illich. Je ne savais pas qu'Ivan Illich était juif, d'ailleurs. C'est en préparant mon livre, en relisant des passages. Ivan Illich a remis en question énormément de choses sur l'éducation. Son livre très intéressant qui s'appelle « Une société sans école »,« Pour une société sans école », »,« Némésis médical », où il a remis en question tout le système médical classique, les hôpitaux, etc. Je vous conseille. Et c'est le premier aussi, dès les années 50-60, a remis en question la dimension technologique et qui a dit qu'il y avait, des illusions d'optique sur les progrès technologiques. Il a dit par exemple, une voiture fait du 7 à l'heure. Une voiture fait du 7 à l'heure. Pourquoi une voiture fait du 7 à l'heure? Parce que pour faire une voiture, il faut d'abord des ingénieurs qui travaillent pendant des années. Ensuite, il faut fabriquer la voiture. Il faut des matières premières. Ensuite, il faut du pétrole pour la faire rouler. Il faut une assurance. Il faut des routes. Donc si on met à plat toute l'énergie mise pour une voiture, ouais, et que tu la découpes, ça fait la même énergie que si tu marchais à 7 à l'heure. Ça, il a dit, donc il a remis en question des fondements, je dirais, du monde technologique. Et il a remis aussi en question la dimension d'école structurée, etc. Ces dimensions déstructurées, c'est la dimension, je dirais, de l'authenticité humaine. Mais si on ne vit que sur cette authenticité, on se détruit. Je dirais, les créatifs, par exemple, aujourd'hui, notre star à tous, la petite Amy, quelqu'un, il veut être authentique, il vit pas vieux. Quelqu'un veut vraiment vivre la dimension de Neshama, veut être créatif. Quelqu'un, même en musique, ouais. Aujourd'hui, on peut dire c'est Amy. À mon époque, c'était notre cher Jimi Hendrix, ouais. Janis Joplin, évidemment. Janis Joplin. Ouais. Quelqu'un, il va se mettre vraiment dans ce qu'il va. Il va être créatif. Il va inventer. Il va inventer. Il va se bousiller. Le Talmud, je dirais, c'est la possibilité de développer ces dimensions de Neshama. Le Maharal de Prague dit, la Neshama, c'est la pensée. L'âme, où se trouve l'âme, c'est le besoin qu'on a de penser. Et s'il y a des gens, ils sont dépressifs. Le Maharal dit, pourquoi ils sont dépressifs? Il y a plusieurs raisons d'être dépressif, évidemment. Évidemment. Plusieurs raisons, beaucoup de raisons d'être dépressif. Mais une des raisons d'être dépressif, c'est qu'on ne se donne pas la possibilité, on n'a même pas l'idée de penser. On ne se nourrit pas, on peut se nourrir physiquement, mais si on n'a pas d'outils pour réfléchir, on est en manque. On est en manque. Et on peut... On passe notre vie à côté de ce qu'on a besoin. Cette dimension-là, c'est la dimension de créativité, de poser des questions. De poser des questions. Se poser des questions, mais ce n'est pas que se poser des questions. Il y en a qui pensent que la pensée juive, c'est le j'ai lu, tout le monde a lu dans les journaux, Bernard-Henri Lévy, il dit « Moi, je suis un juif orthodoxe. Je me pose toujours des questions. » Ouais, alors, bon. Alors, c'est très joli. C'est pas vraiment ça. Je dirais, le Talmud, c'est la possibilité de construire cette pensée, de sans tabou, d'analyser les choses, de voir les choses d'une autre manière que ce qu'on aurait pu voir, mais d'arriver à vivre cela et le concrétiser dans notre existence. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension de la halakha, de la loi. Ce n'est pas simplement des pensées comme ça pour le plaisir, mais c'est pouvoir vivre cette utopie dans notre existence. Ça, c'est très très important. Et je pense, vous m'avez posé la question sur Freud, oui, qu'il y a cette dimension chez Freud de remettre en question. Ça, ce qui lui manquait, c'est de pouvoir concrétiser dans l'existence. Et ça a apporté une dimension d'un côté positif, parce qu'il a remis en question énormément de choses, mais d'un autre côté destructeur. Sans ça, qu'il n'est pas talmudiste. D'autres questions ?
Donc, pour une question, j'ai écouté sur Academ une réunion qui a eu lieu au centre communautaire sur les femmes, l'égalité des femmes dans la loi juive. Et d'après ce qu'ils ont expliqué, que le rabbinat français serait très en retard, par exemple sur le rabbinat aux États-Unis et même en Israël. Sur la question, par exemple, de faire entrer des femmes au consistoire, ça avait été proposé par Moïse Cohen, et d'autres rabbins se sont opposés. Et elle dit, dans certaines questions, la loi ne s'oppose pas. C'est d'autres qui s'opposent, certains s'opposent, elle dit, plus par misogynie que par la loi. En Israël, elle explique qu'en Palestine, en 1920, il y a eu un débat sur les élections. Les femmes peuvent-elles voter aux élections? Il n'y était pas question d'élection en 1920. Israël n'existait pas. Un rabbin, excusez-moi j'ai oublié le nom, a décidé, les femmes peuvent voter et elles peuvent même être élues. Et l'autre rabbin, qui c'était le rabbin Kouch, a décidé que non. Donc, c'est-à-dire que quand même, l'indépendance est arrivée et les femmes ont quand même voté. Mais pour vous dire, vous voyez, entre deux choses, et elles expliquent, elles sont un petit peu... c'est les femmes religieuses, hein, attention. Oui. Les femmes très religieuses, et elles expliquent qu'en France, elles trouvent que le rabbinat sur la question de l'égalité des femmes, sur le guet et sur tout ça, il y a quand même un très grand retard.
Bien, alors regardez. Voilà. Personnellement, Maria Courtade m'a présenté monsieur le rabbin, gentiment, mais je ne suis pas rabbin. Oui. Comment? Non, mais ce que je veux dire, je ne fais pas partie du consistoire, personnellement. Ce que je veux dire, hein, c'est tout ce que je veux dire. Je ne fais pas partie du consistoire. Donc, les gens s'engagent dans ce qu'ils peuvent s'engager. Je n'étais pas non plus à ce... Voilà. Maintenant, c'est un sujet très important, ce que vous dites, que j'ai traité en long, en large, dans le livre. Oui. Il y a un chapitre là-dessus. L'égalité des siècles dans la relation à Dieu. Plutôt la différence de sexe dans la relation à Dieu. la différence des sexes dans la relation à Dieu. C'est un thème que j'ai travaillé beaucoup. Voilà. J'aime bien répondre de manière talmudique, parce que c'est mon travail. Donc une question importante comme cela ne peut pas être abordée par deux phrases. Bien. On a vu tout à l'heure que le biologique n'impose pas, ne fait pas loi en tant que telle. La loi est une dimension culturelle. Prenons un exemple. La dimension de paternité, de filiation, n'est pas une dimension d'ADN, c'est une dimension de parole. C'est une dimension culturelle. Le Talmud dit, il n'y a pas de père et de fils chez les animaux. Père et fils, c'est une dimension éminemment humaine, culturelle. Bien. De la même manière, la dimension, la différence homme-femme, par un substrat physique, une femme est une femme, un homme est un homme. Bien. Maintenant, dans notre tradition, on ne cherche pas à mettre tout sur le même niveau. On ne cherche pas, dans la tradition juive, à dire que un homme c'est comme une femme et une femme c'est comme un homme. De la même manière, de manière choquante, oui, on va dire un juif est un juif, quelqu'un qui n'est pas juif n'est pas juif. Ça ne veut pas dire que c'est très bien de ne pas être juif, c'est très bien d'être juif, mais ce n'est pas la même chose. Il y a des différences. Ce n'est pas du même ordre. Mais tout n'est pas dans tout et réciproquement. Dans la tradition juive, la femme a certains engagements en existence que la Torah lui fait incomber, et l'homme a certaines responsabilités qui lui incombent. C'est pas, grosso modo, sur beaucoup de choses, il y a un tronc commun, mais c'est pas toujours pareil. Prenons un exemple. Une femme ne peut pas être juge rabbinique. D'accord, mais moi je peux vous dire. On n'est pas en Israël, on est ici dans le 3e arrondissement, ouais, 10 rue Portefoin, ouais, et je peux vous dire, dans la loi juive, une femme ne peut pas être juge rabbinique. Maintenant, un ignorant non plus, un homme ignorant non plus, je veux dire, juge rabbinique, il faut le faire pour être juge rabbinique. Alors, pourquoi ça dépasse un peu le cadre? Il faudrait une étude spécifique. Mais je ne veux pas trop pousser à la consommation, mais disons, c'est lisez le bouquin. mais je sais pas, si vous voulez, je ne sais pas non plus, et je crois que ça c'est important, si l'importance de quelqu'un se mesure à l'aune de sa dimension sociale. C'est pas forcément que quelqu'un a un rôle important à jouer parce qu'il peut avoir une responsabilité sociale. Peut-être quelqu'un a des choses peut-être parfois plus importantes à faire hors de la sphère de la cité. Il y a la cité, mais il y a aussi l'intimité. On voit par exemple dans la Torah que les matriarches, elles ont fait des fois plus que les patriarches. Mais elle, ça c'est un sujet très très important. Qu'est-ce que la femme apporte de spécifique? C'est un sujet très très important.
Au XXIe siècle,
oui.
Les femmes sont à la tête d'État.
Elles, oui, mais...
Comment c'est dit dans les écoles pour étudier, les femmes n'ont pas le droit d'étudier la même chose que les hommes. Donc c'est une question qui fait débat.
Oui, oui, non, non, mais oui, mais regardez, monsieur. Oui, mais je, il faut.
Non, mais on parle non, d'aujourd'hui, vous parlez d'il y a 2000 ans.
Non, mais moi, je parle de demain.
La loi
non, vous dites non. Je parle de demain. Ma question, c'est par rapport à demain. pour... Je sais, je cherche pas à vous plaire.
Or, la loi juive, vous dites vous-même, évolue. Et c'est sa grandeur. Or, là, actuellement, elle semble un peu figée. Surtout en France. Non. C'est un constat. Donc, si vous me parlez de la position des femmes au 2e siècle ou au 3e siècle, la vie n'était pas la même.
Okay.
Actuellement, les femmes sont juges. Elles ont des postes importants. Elles étudient. Elles ont les mêmes facultés.
Non, mais ça, c'est très c'est, tout ça, c'est très bien. Je vais vous dire, c'est même plus que ça. Il y a un de mes élèves, il s'est marié à ses fiançailles. Je lui ai dit, bienvenue à celui qui rentre au club, celui dont la femme est plus intelligente que lui. Moi, je pense personnellement que ma femme est plus intelligente que moi. Mais on n'a pas forcément les mêmes choses à faire dans l'existence. Il faut étudier le sujet. C'est un sujet à étudier en tant que tel.
Comment?
On a pas droit. Quelque chose de drôle. On attendra encore 2000 ans.
Oui, on va attendre. On n'est pas pressé. Voilà, merci.
Merci pour votre
intervention. Regardez, on a un site internet important.
Oui.
Et si ça vous intéresse, on envoie une newsletter avec des liens avec notre site. Si ça vous intéresse, vous mettez votre adresse email. Et si ça vous intéresse aussi...
C'est qui vous, c'est
vous. Noteshiva. Noteshiva. Voilà.
Oui, mais j'adore cette pensée. J'adore cette façon de penser. Mais j'étais déjà proche de ça. Et là, on peut y aller dans cette école.
Comment?
On peut y aller dans cette école, c'est une
fois. Ben oui, demandez à Audrey.
C'est qui, hein? Audrey?
Audrey. Est-ce qu'on peut venir dans mon école?
On est très bien reçus.
Une yeshiva pour femmes.
Enfin, mais
bien. Salut Philippe.
Redoutable débatteur.
Comment?
Il est redoutable débatteur.
Ah bon? Je sais pas, je ne me rends pas compte.
Like du service.
Comment?
Il fallait
Il fallait
parler comme un grand-père.